découvrir Hélène Pedneaux. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneaux, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Deuxième série, La douleur des volcans. Premier épisode. Éruption volcanique. Une vie. Un livre. Baroque comme la vie. Une enfance. Des lieux. Des liens. De l'eau. Des larmes. Des lunes. Des lettres. Des lits. De l'ennui. Des valises. Des visages. Des coups. Des encoches au myocarde. Des trains. Des genoux éraflés, des photos, des riens, des éternuements, des histoires, des visites, des rêves, du sel, des rires, des rencontres, des sacs en plastique, des accidents, des portes fermées sur les doigts, des frissons, des femmes, de la folie, du soleil, des bijoux, des adieux, des dos, des cheveux, des souvenirs, des saisons, des raisons, des rumeurs, des hommes. Des balançoires, des nouvelles, du froid, des taches, des baisers, des cicatrices, des vitres cassées fraîchement lavées, des avions pris, des vitamines oubliées, des voix, des chats, du sommeil, des journaux, des âges, de la neige, de la mer, des mots, des misères, des mensonges, des musiques, des marques, des manques, des morceaux, des amours, des amis, des images, des mots, des mains, des matins, des morts. De la pluie, des pantalons, des parents, des peurs, du poivre, des pays, des parfums, des pas. Quelques pas. Dehors, dedans, tout est marqué. Les mots, l'amour, la mort. Des mémoires dérisoires aussi courtes que la mémoire. Tout est faux, dehors. Une vie, une seule, pêle-mêle. Tout est oublié. La vie est un sac à main ou un tiroir. Tout est vrai dedans. Il n'y a pas de honte à vivre, c'est un exploit. Une vie, un livre, baroque. Zone sinistrée. L'écriture, c'est une zone sinistrée où les attentats contre la personne sont la monnaie courante, zone fréquentée par des poux qui pensent qu'ils sont dans une chevelure. Et le plus beau, c'est que les poux arrivent à nous faire croire aux cheveux. C'est à n'y rien comprendre. L'arbre est dans ses feuilles. S'il y avait eu un carré Saint-Louis à Jonquière dans les années 60, il serait vite devenu un parking à cause des urbanistes qui venaient d'être inventés en vue de détruire. Pour sortir du bois, le Québec est entré dans le ciment. Heureusement que le carré Saint-Louis n'était pas à Jonquière. À Jonquière, nos vaisseaux d'or étaient des pitounes flottant sur la rivière au sable qui coupait la ville en deux. Les pitounes flottaient en rang tellement serré que les Wananiches ne pouvaient plus sauter. Mais on pouvait marcher sur l'eau et traverser la rivière sur ce pont improvisé qui changeait de forme chaque jour. Loin du carré Saint-Louis, pour moi, enfant, les pitounes n'étaient que des pitounes. J'ai compris plus tard, à cause de la senteur qui coupait l'appétit, que les pitounes étaient jetées dans l'acide comme les corps des femmes de Landru pour devenir du papier. Bien plus tard, j'ai su qu'il y avait des écrivains qui écrivaient des livres sur ce papier. Beaucoup plus tard, j'ai su qu'il y avait un carré Saint-Louis avec des poètes nécessairement fous dans une ville mythique qui sentait le soufre, selon ma mère qui avait le nez très fin. Et bien plus tard encore, j'ai fait de la pitoune une histoire personnelle pour écrire à mon tour, à cause des arbres qui se sacrifient pour nous. Les arbres du carré Saint-Louis sont beaucoup trop littéraires pour devenir de vulgaires pitounes dans une vie ultérieure. Ils n'ont pas voulu se sacrifier cela parce qu'ils voulaient écrire eux-mêmes l'histoire des gens. Ce qu'ils ont fait. Les arbres écrivent l'histoire, comme nous, et gardent leurs livres plus secrets encore que ceux des bibliothèques d'Alexandrie ou du Vatican. Mais la bibliothèque d'Alexandrie a quand même été détruite par des gens qui n'aimaient pas que les livres se souviennent de tout grâce aux arbres. J'ai peur tout à coup. Les promoteurs du nouvel ordre mondial ont bombardé les souvenirs de toute l'humanité en Irak, l'autre hiver. Ils ont eu peur de se souvenir qu'ils viennent du même monde que les Arabes. Je ne voudrais pas que des promoteurs véreux qui détestent la mémoire comme la peste se mettent à lorgner les arbres du carré Saint-Louis comme des pitounes, comme certains hommes regardent les femmes. Péché mortel. Mon père, je m'accuse d'avoir une fixation orale. Je n'arrête pas de parler. Je fais aller ma langue à toute vitesse de peur d'échapper des mots. Je ne suis bien que quand je fais du bruit avec ma bouche. Et tant mieux s'il y a parfois des mots qui réussissent à passer à travers le tumulte. Je déteste le silence et pourtant je le supplie de rester, de m'attendre encore un peu dans un coin là-bas. Tout mon corps est tendu vers un seul but, dire. Je mange mes mots. Je les respire un par un pour leur prendre leur parfum de laine mouillée, de lavande et de sueur mêlée. Je les bouscule, les crache, les jette hors de ma bouche. Je les répudie, les avale, mais il y en a toujours. Plus je parle, plus il y en a. On dirait qu'ils se multiplient entre eux. C'est ça, ils copulent dans ma bouche et font des petits sans arrêt, plus prolifiques que des rats. Imaginez mon père. Ça copule dans ma bouche inlassablement. Un mot en entraîne un autre, puis un autre et un autre encore. Parfois même des idées se glissent entre eux. Ils sortent engrossés, énormes, prêts à copuler avec n'importe qui. En chaleur, ils se jetteraient sur n'importe quelle mémoire, sur n'importe quelle bouche, dans l'espoir secret d'être répétés, de devenir une rumeur sourde, sans prendre garde aux microbes. Ils se foutent des épidémies. Parfois, ils arrivent par la tête des autres jusqu'à leur cœur. Ils grouillent sur la peau des autres tant ils sont nombreux et vivaces, je les vois. Ils s'attendent à la sortie de ma bouche pour mieux faire leur coup en bande, pour faire davantage de mal ou de plaisir, selon leur humeur. C'est terrible, mon père. Je n'arrive pas à les arrêter. Ce sont des flèches d'arbalète, des saumons qui remontent le courant à l'envers pour frayer, des spermatozoïdes à la recherche de l'ovule prêts à s'entretuer pour venir au monde. Ils vont finir par me bouffer si je me mets à parler seul un jour, je le sais. Ils ont pondu des œufs en moi en prévision de ce grand moment de triomphe. Ils ont tout prévu, y compris me rendre folle. Ils vont même jusqu'à goûter quelque chose pour mieux m'avoir. Certains goûtent les tortellini rossini, d'autres l'orange, le rhum brun ou le poivre vert. Ils se rendent aphrodisiaques, ils excitent ma langue. Mes papilles n'en peuvent plus, ma salive déborde. Ils ont tous les pouvoirs, ils savent tout de moi. Ils me font même parler en dormant, les salauds. C'est la déchéance. Je ne sais pas jusqu'où je serai capable d'aller pour les satisfaire. Je me roule à leurs pieds, j'en redemande. Je les aime à la folie. Ils font de moi ce qu'ils veulent. J'ai essayé de porter un bâillon, mais ils ont tenté de m'étouffer en bloquant ma trachée. Ils se sont laissés accumuler là, volontairement passifs, sûrs de leur emprise. Si je me coupe la langue, ils sortiront au bout de mes doigts. Je le sais, je les connais. La nuit, ils se métamorphosent en rêve, parce qu'ils ont entendu dire qu'une image vaut mille mots. Ils se souviennent de tout. Mercenaires assoiffés de sens, ils font des blitz dans ma mémoire, la laisse béante et vide. Ils ne me lâchent pas d'une semelle. Je suis à genoux devant eux, je ne peux plus m'en passer. Je dois vous avouer qu'ils me donnent des frissons, les salauds. Des frissons inégalés dans toute l'histoire de mon corps. C'est là que, brisée, défaite, dépossédée jusqu'à la moelle, je n'ai pas d'autre choix que de les écrire pour les faire taire en moi. C'est de l'abjection, mon père. Je ne suis jamais descendue aussi bas pour ne pas mourir. Que dois-je faire? Croyez-vous que je sois un cas d'exorcisme? Tu parles dans ton dos. Tu parles dans ton dos. Je le vois. Et je l'entends dans le mouvement imperceptible qui porte chaque mot, qui soulève chaque phrase dans les plis de ton chandail de laine, épais et rouge ce soir-là. Tu vibres, et je le vois dans ton dos. C'est un plaisir qui va des épaules au milieu du dos, en passant, je crois, par les omoplates. Un plaisir qui creuse, j'en suis sûre, au milieu de ton dos, mais la laine de ton chandail m'empêche de le savoir vraiment. C'est ainsi qu'on pense avoir des fantasmes parce qu'on n'a pas de preuve à cause de l'épaisseur d'un chandail ou autre chose qui s'installe entre soi et la preuve, entre le réel et l'imaginé. C'est ainsi qu'on pense avoir rêvé. Je vois vibrer mon texte dans ton dos et je suis incapable de détacher mon regard de ce texte. Je vois aussi d'où je suis, de cet endroit précis qui n'appartient qu'à moi ce soir-là, la lumière dans les fils fous qui sortent de tes cheveux bien tirés. Tes cheveux sont rouges et je ne peux pas dire si le halo qui les encercle vient des éclairages ou de toi disant ce texte. Je vois aussi une partie de ton cou, jusqu'à l'arrière de l'oreille droite. C'est flou et précis à la fois. Je vois parfaitement la forme de ton oreille. Je vois un bout de corps et de peau et un chandail rouge qui prend toute la place. C'est lui qui se soulève quand tu respires. D'habitude, quand quelqu'un respire, on voit sa poitrine se soulever doucement. Mais là, je vois le dos et ça me fait quelque chose de très intime avec toi. D'autant plus que ta voix projette en avant et je n'en reçois que l'écho. C'est comme si je m'apprêtais à te surprendre. Tu ne sais pas du tout de quelle manière je te regarde et tu ne le sauras jamais. Tu seras obligé de me croire sur parole. Personne d'autre que moi ne peut te dire à ma place ce que je vois. Je peux donc mentir ou me taire. Est-ce qu'on sait quand on ment? Est-ce qu'on sait quand on se tait? Je ne veux pas que ce texte s'arrête. C'est ce que je sais. Je veux encore voir bouger ce dos et cette laine comme des petites vagues et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir écrit un roman. J'ai le réflexe d'approcher ma main pour sentir comment ça bouge en dehors de mes yeux. Je retiens ma main. Il y a des gens qui nous écoutent. Je remarque que la vibration se promène, qu'elle descend jusqu'au bas de la jupe et qu'elle remonte. Peut-être à cause de l'ampleur du mouvement des bras sur certains passages du texte. Je suis fascinée. Je n'ai jamais entendu des mots qui viennent de moi à travers un dos. Je vis quelque chose d'inédit, une suite imprévue à ce texte que je croyais terminé depuis longtemps. Il se continue. Tu l'écris à nouveau et c'est terriblement vivant. Tu le refais. Mon texte est en train de se réécrire par toi dans ton dos. C'est un luxe qui me convient. 2. Je te vois de profil. Ta voix a quelque chose de plus grave ce soir, de légèrement cassé qu'elle n'avait pas hier. Ta voix est descendue quelque part où les mots étaient avant d'être écrits. Tu dis ce texte sur la même tonalité que moi quand je l'ai écrit. Je ne croyais pas que c'était possible. Ce soir, je remarque le jeu de tes jambes que je ne pouvais pas voir hier à cause de la jupe rouge. Tu ne portes pas vraiment à terre parce que ton ground est ailleurs. Ça donne une légèreté à tes jambes, celle des boxeurs quand ils dansent sur le ring. Tes jambes dansent presque sans arrêt. Les genoux plient un peu, la jambe droite s'éloigne légèrement de la gauche et revient et repart. Tu danses. Ton ground est ailleurs, mais où? Je vois bien ton dos ce soir sans ton chandail. J'avais raison. Il se creuse quand certains mots passent. Tu me fais aimer mon texte. Personne d'autre n'aurait pu écrire ce texte comme je l'ai écrit. Personne d'autre n'aurait pu dire ce texte comme tu le dis. C'est comme ça.
Au fond, dans son écriture, il y a comme deux choses. À la fois, tirer la société vers un objectif plus lié au bien commun, à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose qui fait qu'on a une stature intéressante. Et d'autre part, chercher à comprendre qui elle était. Et à mon avis, c'est le seul vrai travail d'un écrivain ou d'une écrivaine. C'est qui es-tu sur cette terre? Comment as-tu essayé de comprendre qui tu étais? C'est pas juste avoir la facilité à écrire, c'est d'essayer de comprendre les rouages de son cerveau, de ses attitudes, de ses soulèvements, de ses compréhensions du monde, et de nommer ses failles.
J'aime les mots. Ils sont là. Dictionnaire privé. A. Un accident est une ville de Russie. A aime, il n'y a pas nécessairement que des amoureux. L'amour est un fleuve de 4354 km et un massif montagneux très escarpé. En buria, il signifie sale et boueux. En chinois, le fleuve du dragon noir. L'aube est une rivière. B. Un bâton rouge n'est pas une baguette magique. Beauvoir-sur-Mer est un port. Bénin, c'est le nom d'un pays et ce n'est pas grave. Le bouclier canadien ne protège pas le Canada. C. Cage est un compositeur libre. Camus est un nez. Cologne est un parfum avec des rues. La condition humaine est un livre qu'on feuillette. Condon est une ville sur la Baïse. La conscience est un écrivain. La constance, un lac paisible. D. Délicieux était un ennemi de l'Inquisition. Le Don est un fleuve. E. Embrun est une station climatique. F. Un fanon est un psychiatre pour les baleines. La félicité est une esclave et martyre qui fut livrée aux bêtes. Février compose des musiques de chambre. Fini est une peintre éternelle. G. Gela est une ville chaude. Glissant est un poète philosophe. Un gourou est un géographe humain. Gris peint des couleurs. Gros est un peintre, fils d'un miniaturiste. Il se suicide. H. Hélène est une tragédie grecque. Les heures sont trois filles divines. L'humanité est un journal quotidien. Hume est un philosophe qui ne sent pas bien les femmes. I. Les innocents sont des papes. L'iris est une fleur qui voit tout et qui envoie des messages aux dieux. J. Don Jaime est un prince de Madrid. Dommage, c'est un joli nom. La Java est une île qui danse sur un volcan. Joyeuse est un lieu sur la Baume. L. L'Astique est un grand maître. Le Pen est une prison du Québec. L'I. est un poète norvégien qui, le premier, considère les forces psychiques obscures dans l'homme. La loyauté est un archipel. M. La main est un fleuve qui salue le beau Danube autrefois bleu. Un mâle est un historien et un professeur d'art chrétien. Un mari est une ancienne cité. Une métastase est un dramaturge. La mort est une vallée désertique, un fossé d'effondrement s'enfonçant au-dessous du niveau de la mer, d'une aridité quasi totale. N. Natal, c'est le nom d'un pays, même quand on n'y est pas né. Les neiges sont un ancien volcan. Le Nil, ce n'est pas rien. Nice est belle pour des Anglais. Nu est un fervent bouddhiste. O. Une orange est une ville habitée. P. Un paria est une péninsule faite d'une arête étirée. La Penne est une ville d'Allemagne. Petit Pas est danseur et chorégraphe. Peur n'est pas dans les noms propres et ne veut dire qu'une seule chose. Mais ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une ville ou un homme quand on est une femme. Ça peut être une femme quand on est un enfant. Ça peut être une arme quand on est un homme. Ça peut être un amour quand on a été un enfant oublié. Ça peut être un régime quand on est haïtien. Ça peut être une faille quand on est californien. Ça peut être la mort quand on est une vie. Ça peut être toutes sortes de choses. La Prudence a composé 12 hymnes sur les heures de chaque jour. Q. Le Québec est un beau sapin. R. Racine est un orphelin. Ravi est un fleuve dont les eaux captées servent à l'irrigation. Ré est une note dans l'Atlantique. La renommée est un monstre ailé à 100 yeux, 100 oreilles et 100 bouches qui surprend les secrets coupables. La Réunion est une île au climat tropical. Un rictus est un poète des souffrances et des espoirs des déshérités. S. Sado est un lieu d'exil. Un sauveur crée l'acoustique musicale. Il est le premier à étudier les limites de l'audition de l'oreille humaine. Un saint est une île habitée à la pointe. Un sens est un hôtel qui abrite des intrigues galantes. Le siècle est un quotidien politique. La société est un archipel d'îles très peuplées formé de volcans éteints, profondément disséqués par l'érosion. La Souterraine est une ville dans la Creuse et dans la Haute-Manche. Le sublime est une porte. T. Tard est un sociologue. Le temps est un quotidien. Une tortue est une toute petite île. U. Under est une poétesse estonienne. L'union est à la fois un acte et un arrêt. V. Valentin est un saint martyr confondu depuis le 15e siècle avec la fête des amoureux. Une vieille découvrit le processus de l'onde explosive. Vivre n'est pas dans les noms propres. Portrait avec frisson. Elle vient d'avril. Elle en garde le frisson sur le dessus des mains et derrière l'échine, comme celui qui passe sur l'eau quand le soleil s'y naufrage les soirs d'été. Un frisson sur l'écume. Elle vient d'un avril fragile, hésitant, malhabile à refuser la vie à l'hiver pour faire naître l'été lent. Elle est tout en cellophane. Elle se retient toujours de partir au vent et doit se tenir loin des porcs-épics, des cactus, des ongles pointus, de tout ce qui possède le vice de l'épine sans la fleur. Éviter les déchirures. Il aurait fallu qu'on lui donne ce pouvoir. Elle se défend comme elle peut, mais le mieux qu'elle puisse faire, c'est d'être en porcelaine. Sa tête est une tanière remplie de lièvres peureux. Il en sort un parfois, rapidement, dans un coup d'œil, avec un peu d'eau. La plupart du temps, il ne bouge pas, tapis sous la paupière. C'est à cause de la cellophane. Elle a des lignes qui se dessinent toutes seules au bord des yeux et de la bouche. Elle les épie, leur tend des pièges et les brise du doigt. Mais les intruses reviennent à la première distraction, triomphante. Elle est belle comme une fleur qui s'entête à pousser dans les plus infimes fissures de l'asphalte. Elle prend son espace. Elle cause parfois des problèmes d'oxygène. Elle ne sait pas l'anglais et ne sait pas prononcer Dostoïevski sans trébucher. C'est mon amie. La vérité. J'ai vécu une chose bien étrange aujourd'hui. Pendant que je faisais sécher mes fenêtres sur la corde à linge, comme tous les lundis, deux nuages et une lune sont entrés chez moi. J'ai photographié le phénomène avec ma mémoire, mais tout le monde pense que c'est un habile trucage parce que je n'ai pas de négatif. La vérité, pourtant véritable, vraie, évidente et claire comme de l'eau de roche, aurait-elle toujours besoin de preuves ?
Elle avait une intelligence vive, elle était capable d'une synthèse rapide, elle avait une plume qui pouvait être à la fois tranchante, mais toujours d'une humanité incroyable. Elle aimait le monde, elle aimait profondément le monde. Quand proche de sa mort, tu sais, à un moment donné, j'étais surprise de voir tout ce monde-là qui venait la voir, puis elle disait... Oui, puis c'est toutes mes amies. C'était comme, je pense que j'avais fait un sacrilège. Je connaissais quasiment toutes ses amies parce qu'elle n'arrêtait pas de nous parler de tout le monde à tout le monde. Fait qu'on avait l'impression de faire partie d'un clan, mais c'était Hélène, le noyau. Je veux dire, c'est comme... c'était Hélène, puis c'est elle qui faisait que le ciment prenait. Puis c'était la même chose, en tout cas dans ses funérailles, c'est ça qui était tellement touchant, c'est de voir du monde de tous les milieux venir, puis il y avait tout quelque chose à dire, en littérature, pour les féministes, parce que c'était elle aimait les hommes, c'était pas une enragée, Hélène, là-dessus. Elle parlait fort, le monde pouvait avoir peur, puis elle avait pas peur de la polémique, mais elle aimait le monde, elle aimait les gens, fait qu'il y avait une douceur aussi chez elle, troublante, ouais.
portrait avec mystère. Elle est entrée dans ma vie en même temps que dans mon bureau. Elle ne savait pas, et moi non plus, que c'était exactement la bonne place et la bonne heure. Il était tellement temps qu'elle a devancé de 24 heures notre rendez-vous d'affaires. On pourra croire que c'est une erreur. Moi, j'ai vécu ça comme un jour de plus à la connaître. Un bonus. Ça peut avoir de l'importance plus tard, quand nous serons à court de temps. Du dedans au dehors, elle est une suite de transformations subtiles difficiles à fixer. Elle n'aime pas être photographiée. Elle doit avoir les yeux gris, mais je ne pourrais pas le jurer. Parfois, il y a du vert dedans. Je vois du vert dedans, juste assez pour me sentir daltonienne. Elle a de beaux gestes, une nonchalance qui donne le goût de s'y installer comme dans un transatlantique quand il fait chaud, les deux pieds dans le sable. Mais ses gestes ne prennent pas souvent de risques. Ils tournent autour d'elle comme des satellites sous l'emprise de la gravité. Ils ne touchent pas. Ils ne dépassent presque jamais le périmètre de sécurité qu'elle a installé autour de son corps comme une deuxième peau. Ses mains, ce sont ses yeux. Elle n'a pas peur de toucher avec ses yeux. Personnellement, je trouve moins dangereux d'utiliser une main, chacune sa définition de la décence. À cause de ça, on l'a dit lointaine. Pour dire qu'elle est lointaine, il faut la vouloir proche, il me semble. C'est vrai qu'elle est tendre à l'effarouche. C'est peut-être de cette sorte de tendresse que vient la rumeur. Quand elle s'approche trop près de quelqu'un, elle se croit obligée de reculer de 10 km par la suite. C'est fatigant de la voir se promener ainsi. Elle doit être épuisée. Lointaine. Si elle était lointaine, elle n'aurait pas ce sourire magnifique qui vient se loger dans sa pâleur comme un éclat furtif. Son sourire vient et va, arrive en trombe ou file à l'anglaise. On ne sait jamais, mais il ne part jamais complètement. Il laisse des preuves en forme de rides au bord des yeux. Quelqu'un de lointain ne porte pas ce genre de marque. Tenez, je l'ai déjà vu un dimanche matin. Lente, tellement lente, empêtrée dans sa grippe, avec ses vieilles savates portugaises et traîneuses, ses gros bas de laine ravalés par-dessus, sa jaquette de flanelle fripée trop courte et son gros gilet de laine beige trop grand. Ce n'est certainement pas une fille lointaine qui s'habillerait comme ça. Je ne sais pas si je vais terminer son portrait. C'est une haut-parleuse très puissante, elle a tendance à tout amplifier. Une fois, j'ai essayé de lui expliquer en détail sa sorte de beauté et je ne l'ai pas vue pendant 2 semaines. Je marche sur des œufs. Je dis vrai, mais j'atténue. Je brosse ici, j'estompe là. Je suis à 2 doigts de réinventer l'impressionnisme. Je calme le fauve. Je lui dois une mutation. Inutile de le cacher, ça se voit. Mais elle ne peut pas savoir comment j'étais avant elle. Il faut que je lui dise que je lui dois une de mes naissances. Je suis allée trop loin. Il ne me reste plus qu'à attendre la fuite. C'est obligé qu'elle fuit, elle est comme ça. Et si elle ne fuit pas, elle ne me croira pas. Ça l'arrange. Je trouverai bien le moyen d'aller la rechercher. J'en ai déjà toute une collection de moyens. J'oubliais. Si vous la rencontrez, qu'elle vous plaît, que vous voulez devenir son amie, mais que vous ne savez pas comment lui dire parce qu'elle vous semble lointaine, ne vous inquiétez pas. Passez outre et n'attendez surtout pas sa permission pour l'aimer. Elle ne vous en voudra pas très longtemps. Vous venez d'entendre un morceau de La douleur des volcans de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Ariane Aymon et Marie-Claire Séguin. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposés par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.